Première épître à Timothée, chapitre 4, nous relirons à partir du verset 1. Or l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée, défendant de se marier, prescrivant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité, car toute créature de Dieu est bonne, et il n'y en a aucune qui soit rejetée, étant prise avec action de grâce, car elle est sanctifiée par la parole de Dieu et par la prière. En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Mais rejette les fables profanes et de vieilles femmes, et exerce-toi toi-même à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, car si nous travaillons et sommes dans l'opprobre, c'est parce que nous espérons dans le Dieu vivant qu'il est conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Ordonne ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. Persévère dans ces choses, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent.
La dernière fois, nous avons considéré les premiers versets du chapitre 4. C'était avant les vacances, alors je vais peut-être rappeler les choses que nous avons dites jusqu'à maintenant pour introduire. Au chapitre 1, nous avons vu, ou de manière générale déjà dans l'Épître à Timothée, nous voyons l'ordre et les enseignements dans la maison de Dieu. Dans le chapitre 1, nous avons vu que cette maison de Dieu est une maison de grâce et de miséricorde. Et c'est en contraste avec la loi judaïque que certains essayaient d'enseigner. Au chapitre 2, nous avons vu que c'est une maison de prière, une maison d'intercession pour tous les hommes pour qu'ils soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. C'est aussi une maison qui est en ordre selon la création. Nous y voyons la tenue et la position des femmes. Le chapitre 3 est un chapitre qui nous montre par deux exemples, par celui des surveillants et des serviteurs, que la maison de Dieu est une maison qui est en ordre. Et ce chapitre 3 se termine par des versets qui sont centraux dans l'Épître à Timothée, où nous apprenons et nous comprenons que l'Assemblée du Dieu vivant est la colonne et le soutien de la vérité. Nous voyons maintenant au chapitre 4 qu'il y a ce que l'Esprit dit expressément, une personne divine, l'Esprit de Dieu, qui amène les âmes à Dieu. Et il dit expressément qu'il y a des esprits séducteurs qui n'attirent pas à Dieu, mais qui attirent à eux-mêmes. Et ces esprits séducteurs séduisent et font tomber ceux qui n'ont pas gardé une bonne conscience, comme nous le voyons dans le chapitre 1 au verset 19. Gardant la foi, une bonne conscience que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi. Et voilà que nous apprenons ici qu'ils ont cette conscience qui est cautérisée. Au verset 2, nous l'avons rappelé. Et cette conscience cautérisée fait qu'ils sont perméables à ce que ces esprits séducteurs enseignent pour les attirer loin de Dieu. Nous avons dit que ces personnes n'ont pas elles-mêmes la vie, elles ont fait naufrage quant à la foi, mais nous pouvons, nous, croyants, être influencés par de telles personnes. Alors, nous voyons que ces personnes se sont détournées du mystère de la piété, n'ont pas suivi ce chemin. Le mystère de la piété, qui est développé plus tard dans le chapitre 4, nous amène à Dieu et nous tient dans une relation vivante et permanente avec Dieu dans la crainte. Nous avons dit aussi, peut-être que c'est utile de le rappeler, qu'ils rejettent finalement les vérités fondamentales de la foi et aussi même de la crainte du Dieu créateur. Ils défendent de se marier, ils se prescrivent de s'abstenir des viandes que pourtant Dieu a créées pour être prises avec action de grâce par les fidèles et par ceux qui connaissent la vérité.
Verset 6. En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. À partir du verset 6 du chapitre 4, nous avons des instructions personnelles de l'apôtre Paul à son enfant dans la foi, Timothée. Et ces instructions, bien sûr, nous concernent tous, chacun, et que nous soyons un croyant ou une croyante, nous avons des instructions très précises. Alors là, la première de ces instructions de l'apôtre à Timothée, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. La première instruction pour être un bon serviteur du Christ Jésus ou une servante, la première des instructions, c'est d'être nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Nous avons chacun de nous à nous nourrir. Et nous pouvons nous souvenir d'une parole de l'Éternel à Ézéchiel à propos du rouleau du livre. Eh bien, l'Éternel dit au prophète, mange. Nous avons à nous nourrir. Et nous savons que notre corps humain a besoin de nourriture chaque jour. Et de même, un croyant, une croyante, a besoin de nourriture spirituelle chaque jour. Et dans ce verset, nous voyons que nous devons nous nourrir dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine. C'est-à-dire que la vérité doit être assimilée intérieurement. Et comme nous le lisons au début du verset 6, en proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur, c'est-à-dire que la vérité étant assimilée intérieurement par chacun de nous, eh bien c'est un préalable à toute activité spirituelle, que ce soit individuellement ou bien dehors dans le monde, ou bien, bien sûr, dans l'Assemblée. La vérité doit être assimilée. Et nous devons nous nourrir journalièrement des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Et c'est quelque chose de fondamental, c'est que l'âme soit nourrie. Et nous comprenons à travers cette expression d'être nourri que ce n'est pas une simple communication à notre esprit. Ce n'est pas un simple exercice de mémoire. Nous devons être nourris régulièrement de la vérité, et pour cela, bien, cela demande du temps et de l'énergie. On ne peut pas apprendre la vérité du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Et nous voyons que l'apôtre Paul, eh bien, instruit son enfant en lui disant qu'il doit être nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine. Une simple remarque sur l'expression « la bonne doctrine ». Il dit bien « la bonne doctrine » et non pas « les bonnes doctrines » ou « les doctrines ». La bonne doctrine, c'est un tout. La vérité, c'est un tout. Et nous ne pouvons pas en enlever quelque chose ou en ajouter quelque chose. Tu seras nourri donc dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. Encore un verset dans le prophète Jérémie au chapitre 15, verset 16. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées. Et tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. C'est un verset qui est bien connu. Et nous voyons que tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées. Nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, la vérité, et de l'assimiler, de la manger. Et nous voyons cette expression, tes paroles ont été pour moi. Et c'est-à-dire au fond que c'est pour chacun de nous que chacun de nous, nous devons manger les paroles de Dieu, nous devons les assimiler. Tes paroles ont été pour moi. Ce n'est pas pour nous, c'est pour moi. C'est quelque chose de personnel de comprendre la parole de Dieu et de l'assimiler. Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi, l'allégresse et la joie de mon cœur. Dans Ézéchiel, l'expression au chapitre 3, verset 1er, « Fils d'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. » C'est toujours le préalable, c'est de connaître la parole de Dieu, c'est de connaître la vérité, et ensuite, va, parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris ma bouche et il me donna à manger ce rouleau. Et il me dit, fils d'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Et je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, va, fils d'homme, va vers la maison d'Israël. Et tu leur parleras avec mes paroles. On peut lire aussi dans l'Apocalypse, au chapitre 10, verset 8, c'est la voix qui s'adresse à l'apôtre Jean. « Et la voix que j'avais ouïe du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » Et je m'en allai vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et dévore-le. Et il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai, et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et quand je l'eus dévoré, mon ventre fut rempli d'amertume. Être nourri des paroles de Dieu, la première chose que nous constatons, c'est les paroles sont souvent très agréables et douces comme du miel. Mais après, quand nous assimilons ce que nous avons lu, quand nous recevons ces paroles dans nos entrailles, eh bien, elles produisent souvent une remise en question qui nous concerne tous. Et en lisant ces paroles et en les assimilant, nous nous rendons compte qu'il y a certaines choses dans notre vie qui doivent être revues, reprises. Et donc, nous ressentons cette amertume dans le ventre, et nous voyons que la parole de Dieu aussi nous sanctifie, nous met à part et nous fait toucher du doigt ce qui, dans notre vie chrétienne, peut-être doit être revu. Encore un verset dans les Proverbes, au chapitre 13. Proverbes, chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux désire, et il n'y a rien, mais l'âme des diligents sera engraissée. L'âme des diligents sera engraissée. L'apôtre Paul, donc, il exhorte son Timothée, son fils bien-aimé, à se nourrir des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Et nous sommes exhortés pour cela à la diligence, à avoir cette activité journalière. Et nous voyons dans ce verset 4 du chapitre 13 des Proverbes que l'âme des diligents sera engraissé. C'est-à-dire que nous ferons des progrès spirituels et notre connaissance de Dieu lui-même et de Jésus-Christ sera accrue de telle manière que notre âme sera engraissée. Mais il faut s'y tenir et sans doute qu'il faut une discipline personnelle dans l'étude de la parole de Dieu pour avoir une âme qui soit engraissée. Et au chapitre 24 aussi des Proverbes, nous avons une mise en garde. Proverbe 24, verset 30 à 34. J'ai passé près du champ de l'homme paresseux, et près de la vigne de l'homme dépourvu de sens, et voici, tout y était monté en chardon, les orties en avaient couvert la surface, et sa clôture de pierre était démolie. Et je regardais, j'y appliquai mon cœur, je vis et je reçus l'instruction. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et ta pauvreté viendra comme un voyageur, et ton dénuement comme un homme armé. » La parole de Dieu nous met en garde aussi vis-à-vis de la paresse spirituelle. On a dit le désœuvrement, l'oisiveté. Et si nous regardons bien attentivement ce qui se passe de nos jours avec Internet, les moyens de communication, on lit de moins en moins. On est plutôt devant un écran, un spectacle, et il n'y a aucun effort pour retenir ce que pourrait nous dire la parole de Dieu à travers ce moyen. Et l'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, au premier chapitre, nous met en garde contre l'oisiveté, d'être oisif et stérile. Et donc, c'est sans doute une exhortation tout à fait spéciale pour chacun de nous, mais tout particulièrement pour nos jeunes amis, les adolescents. Et l'image que nous trouvons dans les Proverbes, ce chapitre 24, et où il nous est parlé de l'homme paresseux et de la vigne de l'homme dépourvu de sens, eh bien, le champ de ces hommes, mais il n'y a que des chardons, il y a des orties, la clôture de pierre de séparation est démolie. Et donc, c'est une mise en garde très sérieuse. Je crois que dans les Proverbes, le paresseux et la paresse sont cités 18 fois. Et donc, la parole de Dieu insiste beaucoup sur cette mise en garde de lire la parole de Dieu, de se nourrir de la parole de Dieu, de l'assimiler et de la recevoir dans son cœur et dans sa conscience, afin qu'elle produise de bons fruits dans notre vie chrétienne.
Il nous est dit nourri dans deux choses, les paroles de la foi et la bonne doctrine. Et si je reprends le passage que Michel a lu dans Ézéchiel et qu'on lit les quelques versets qui précèdent, donc au chapitre 2, les derniers versets du chapitre 2, il nous est dit un peu plus sur le rouleau. Verset 9, « Je regardais, voici une main étendue vers moi, et voici, il y avait en elle un rouleau de livres. » C'est celui dont il va être parlé au chapitre 3. « Et il le déploya devant moi, il était écrit devant et derrière. » Et des lamentations et des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Et alors on enchaîne sur la suite, ce qu'on a lu tout à l'heure, et alors on est étonné qu'un tel contenu fasse qu'au fond, je mangeais et il fut dans ma bouche doux comme du miel. La suite nous parle de langage, un peuple au langage incompréhensible, l'image qui est utilisée dans Ésaïe, pour parler des nations et pour parler de la manière dont Dieu parlera à Israël. Entre parenthèses, on a là un aspect dans Ésaïe qui est déjà annonciateur de l'action de l'Esprit à la Pentecôte, quand la louange, les merveilles de Dieu seront annoncées dans toutes les langues. Voilà, mais je ne veux pas dériver. Et puis en contraste, il y a Israël qui comprend le langage de Dieu. Mais à Israël, qu'est-ce qu'il écrit ? Des lamentations, des plaintes, des gémissements. Et pourtant, c'est comme du miel. Pourquoi ? Ben, on a la réponse, nourri dans les paroles de la foi. Et me dit qu'il y a là quelque chose qui peut être une aide. La paresse, bien sûr, peut nous amener à négliger la parole de Dieu. Une autre chose peut nous amener, pas forcément à la négliger, mais à être en danger de la laisser en retrait. C'est quand on est tout simplement devant des passages qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas, c'est pas la peine que je continue à lire, je ne comprends rien. Et je pense par exemple à une remarque que je me suis fait moi-même quand j'étais jeune et que j'ai entendue déjà plusieurs fois d'autres frères et sœurs de tout âge, entre des plus âgés qui ont passé par cela et des plus jeunes qui sont dans la perplexité. Quand on lit par exemple les livres de Samuel, de rois, des rois, des chroniques, quand on lit la vie de David et on voit tous ces massacres, tous ces morts que, par exemple, David a été amené à devoir juger les nations autour de lui, être le bras de Dieu pour juger les nations de Dieu. Et on se dit, mais tout ce sang, toute cette violence, pourquoi Dieu donne de telles instructions, donne de telles choses? On est perplexe devant cela. Mais la parole de la foi, elle place ces choses dans un contexte plus large. Elle voit qu'il y a le jugement divin qui est une œuvre étrange, un travail inaccoutumé. On l'a lu au début, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Et il y a sa sainteté qui exige que ceux qui n'auront pas voulu, qui auront refusé d'écouter, seront jugés. Dieu est un Dieu saint en même temps qu'un Dieu de grâce et d'amour. Il est un Dieu juste. Et la parole de la foi prend toujours ces choses ensemble et retient autant qu'il y a le jugement qui vient, qu'il y a le salut qui est offert aujourd'hui et qui est accessible à tout homme. Alors, devant des passages que nous ne comprenons pas, que faut-il faire? La première chose, bien évidemment, le dire au Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas cela. Et puis le dire dans une prière de foi. Maintenant, je ne comprends pas ça. Mais j'ai confiance que un jour, je ne sais pas quand, tu me le feras comprendre. Et alors je poursuis ma lecture et je continue à me nourrir de cette parole avec des choses que maintenant je ne comprends pas, que je laisse de côté. Je ne les mets pas au placard en les oubliant. Je les mets maintenant de côté pour qu'elles n'arrêtent pas mon chemin. Et je continue mon chemin en continuant à me nourrir du reste, de ce qui suit, de ce qui va venir, pour entrer justement, pour emmagasiner les outils qui vont me permettre de ressortir ces choses que je n'ai pas compris et les regarder avec un autre regard et les comprendre. Nourris dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise, ou alors d'après la note qui nous est donnée en bas de page, suivie avec exactitude, on a exactement la note nous le renvoie en 2 Timothée 3:10, on a exactement la même expression qui est utilisée. Suivie, compris, ça veut dire que je l'ai plutôt assimilé, je suis entré dedans. Suivie avec exactitude, ça veut dire que je ne l'ai peut-être pas pleinement compris, mais je m'y suis soumis. Je l'ai fait mien, même en ne comprenant pas tout. En le prenant, en l'emmagasinant dans ce bagage que Dieu me donne. Et je crois que ces deux expressions, les paroles à foi, la bonne doctrine, viennent là justement en écho, ou plutôt en préparation du verset suivant, où il nous est parlé de fables profanes. Rejette les fables profanes et de vieilles femmes. Les fables profanes, on l'a déjà évoqué quand on était au chapitre 1er, quand on parlait des doctrines étrangères et les fables, les généalogies interminables, voilà, c'est quoi? C'est le fruit de notre imagination. C'est notre imagination qui erre en partant peut-être d'un passage de la parole et puis en le prenant à notre sauce, à notre façon et en le laissant les pensées filer et construire des choses qui n'ont aucun fondement, qui sont décorrélées, déconnectées du passage qui a servi de point de départ, et qu'un autre passage, peut-être la ligne suivante, nous ferait voir que non, c'est d'imagination, c'est d'imaginaire. C'est quelque chose auquel nous devons veiller, et nous pouvons tous être tentés de laisser flotter notre imagination. Et le remède, il est justement là, parole de foi et bonne doctrine. la doctrine de la parole de Dieu, la pensée de Dieu révélée, reçue par la foi. C'est la garde sûre par rapport à ce qui est les méfaits, si on peut dire, de l'imagination.
À propos de, à la suite de ce que vient de dire Jacques, à propos de la mémorisation, c'est-à-dire des passages de l'Écriture, nous pouvons très bien les trouver difficiles à comprendre sur le moment, et puis et peut-être que plus tard nous les comprendrons. Alors à ce propos, on pourrait lire trois ou quatre passages dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Verset 61. Et le Seigneur se tournant regarda Pierre, et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur. Quand le Seigneur, dans la page précédente, lui a dit que Pierre, je te dis, le coq ne chantera point aujourd'hui que premièrement tu n'aies nié trois fois de me connaître. Il semble que Pierre n'ait pas compris sur le moment la parole du Seigneur. Et il arrive à un moment où cette parole était quand même dans sa mémoire de Pierre. Et là, il nous est dit au verset 61... Et Pierre se ressouvint de la parole du Seigneur, comme il lui avait dit, avant que le coq chante, « Tu me renieras trois fois », et Pierre, étant sorti dehors, pleura amèrement. Cela nous prouve que, en lisant la parole de Dieu, il y a certains passages de l'Écriture que nous avons peut-être quelque part dans notre mémoire, qui peuvent revenir à l'esprit au bon moment, c'est-à-dire au moment de Dieu, et ce souvenir, eh bien, va trouver un écho dans notre esprit, dans notre cœur et dans notre conscience. Et ce sera peut-être une répréhension, mais ça peut être aussi une aide ou un réconfort par les Écritures, selon les moments que nous traversons ou les épreuves que nous traversons. Mais si nous ne lisons pas la parole de Dieu, si nous ne sommes pas nourris de ses paroles, si nous n'avons pas fait un certain effort de mémorisation, eh bien, ça ne nous est pas possible de se souvenir, comme il nous est dit dans ce verset 61. Encore, en tournant la page, dans Luc 24, il nous est dit... au verset 8... Il nous est parlé donc des femmes qui étaient allées au sépulcre. Et au verset 7, il est dit il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Se souvenir des paroles du Seigneur. Dans l'évangile de Jean, on tourne la page. Au chapitre 2, il nous est dit aussi au verset 21-22, mais lui parlait du temple, c'est le Seigneur, de son corps. Lors donc il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. troisième exemple de l'Écriture pour nous montrer l'importance d'une lecture assidue et d'essayer de se souvenir des paroles du Seigneur. Encore, je crois que c'est dans les Actes, je crois que c'est chapitre 11, encore un autre exemple, je crois. Ouais. Actes 11. Il nous est dit, c'est Pierre qui parle, verset 16, « Et je me souvins de la parole du Seigneur, comment il a dit, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Si donc Dieu leur a fait le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour pouvoir l'interdire ?» Voyons l'importance de la lecture de la parole de Dieu, de la mémorisation. Si nous ne l'avons pas dans la mémoire, eh bien, dans une épreuve particulière, eh bien, elle ne pourra pas venir à notre esprit pour nous encourager. Encore, à propos de la parole de Dieu, il nous est dit, dans 2 Timothée, au chapitre 3, encore, je crois que Jacques vient de le citer, verset 14, « Mais toi demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises. » Et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Donc là, nous voyons des paroles qui sont apprises. Alors, nous avons à nous nourrir, nous avons à les mémoriser, nous avons ici à les apprendre. Et quel bonheur que d'avoir dans notre mémoire et dans notre esprit les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur. Et dans ce passage, nous voyons qu'elles peuvent nous rendre sages à salut. C'est-à-dire, dans toutes les circonstances que nous pouvons traverser, si nous connaissons bien la parole de Dieu, eh bien, elles vont nous rendre sages dans notre vie pratique parce qu'elles vont nous montrer quel doit être le chemin que nous avons à suivre. Et c'est pour ça qu'il est ajouté, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, la parole de Dieu est utile pour enseigner, c'est-à-dire qu'elle nous dit ce qui est juste. Ensuite, il nous est dit qu'elle est utile pour convaincre, et c'est-à-dire convaincre, le sens du mot ici, c'est elle nous reprend. C'est dans le sens de la réprobation. C'est-à-dire, si elle nous instruit et qu'elle nous montre quel est le bon chemin, eh bien, elle nous montre aussi, quand nous sommes dans un mauvais chemin, eh bien, elle nous le dit, elle nous l'enseigne, afin que nous abandonnions ce mauvais chemin et que nous puissions aller dans le chemin étroit que le Seigneur Jésus nous a donné à suivre. Ensuite, elle nous corrige, c'est-à-dire, elle nous montre comment bien faire. La correction des parents par rapport aux enfants, c'est pour nous montrer ce qu'il faut faire avec exactitude. Elle nous montre aussi comment bien faire. Donc la parole de Dieu nous dit ce qui est juste, elle nous dit ce qui n'est pas juste dans notre vie, elle nous corrige, elle nous montre au fond quel doit être le chemin que nous devons suivre, et il nous est ajouté pour nous instruire dans la justice. C'est-à-dire qu'elle va nous montrer quel est le droit chemin, le chemin juste que notre Dieu qui est juste, qui veut que nous prenions ce chemin que lui se propose pour chacun de nous.
Suivre avec exactitude, comme l'a rappelé de Timothée 3:10. Vous pouvez aussi lire 1 Timothée, le chapitre 6, les versets 3 à 5. 1 Timothée 6, 3 à 5.
1 Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se range pas à de saintes paroles, savoir à celle de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais ayant la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les paroles injurieuses, les mauvais soupçons, les vaines disputes d'hommes corrompus dans leur entendement et privés de la vérité, qui estiment que la piété est une source de gain.
Tite 2, le verset 7.
Tite chapitre 2, verset 7, exhorte de même les jeunes hommes à être sobres, te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonne œuvre, faisant preuve dans l'enseignement de pureté de doctrine, de gravité de parole, saine qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous.
Avec exactitude, la parole de la vérité.
Si on survole juste la suite du chapitre pour remettre les choses en perspective un peu, on voit que dans ce paragraphe, Paul s'adresse à Timothée en ayant toujours deux aspects liés qu'il met devant le cœur, qu'il met sur le cœur de Timothée, qui est d'une part son service, d'autre part sa vie personnelle en rapport avec ce service. Verset 6 commence « En proposant ces choses aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. » C'est le côté visible, extérieur de son service. « Nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprise. » C'est le pendant de sa marche, de sa vie intérieure. Et on retrouve cela à plusieurs reprises. Verset 11 « Ordonne ces choses, enseigne-les. » Plus loin, il est parlé de l'enseignement, fin du verset 13, d'exhortation à l'enseignement. Il est parlé de la lecture avant, mais je ne vais pas anticiper. Et plus loin encore, de nouveau, verset 16, « Sois attentif à toi-même et à l'enseignement. » Toujours ces deux côtés. Ton état intérieur, ta vie personnelle avec le Seigneur et ton service. Les deux sont imbriqués, sont liés, sont indissociables l'une dans l'autre. Et au verset 14, il est parlé de ce don de grâce qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains du corps des anciens. Il y a là quelque chose qui lui a été donné de Dieu et qui est son service, qui est sa part. Et alors on a dans ce nourri, on a évoqué la nourriture comme étant quelque chose de nécessaire au quotidien pour vivre, pour grandir, pour subsister. Et puis alors au verset 7, on a en contraste, il y a des choses à rejeter, et puis exerce-toi toi-même à la piété. Un exercice continuel, et où Paul met en regard cet exercice de la piété, et puis l'exercice corporel. Utile à peu de choses, pas inutile, utile à peu de choses, et la piété utile à toute chose. Et là on est dans cette image que Paul utilise à plusieurs reprises, on l'a dans les Corinthiens en particulier, quand il... 1 Corinthiens 9, où il prend ces images de la compétition sportive, qu'il utilise à plusieurs reprises, ou alors à d'autres occasions, on verra dans 2 Timothée le combat, le soldat qui est engagé dans une armée. Verset 24, 1 Corinthiens 9, verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans la lice courent tous, mais un seul reçoit le prix ? Courez de telle manière que vous le remportiez. Or, quiconque combat dans l'arène vit de régime en toute chose. » Il y a la nourriture, d'une part, il y a le régime, pas n'importe quelle nourriture, pas n'importe comment. « Car ceux donc, afin de recevoir une couronne corruptible, mais nous, afin de recevoir une incorruptible. » Deux mesures différentes, les choses de la terre pour la terre, les choses de Dieu pour l'éternité, pour le ciel. Verset 26, « Moi donc, je cours ainsi, non comme ne sachant pas vers quel but, je combats ainsi, non comme battant l'air, mais je mortifie mon corps, je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. » Verset 26, on a l'entraînement nécessaire pour le combat, pour la course, et pas un entraînement fait n'importe comment. Le sportif qui veut s'entraîner pour la course de fond ne va pas s'entraîner pareillement que celui qui fait du sprint. L'entraînement doit être adapté à la compétition qui est en vue. Donc je cours non pas comme battant l'air, je ne fais pas n'importe quoi dans ce que j'appelle mon entraînement. Et la conséquence, verset 27, le côté spirituel, côté du croyant, la transposition spirituelle plutôt, je mortifie mon corps, je l'asservis, de peur qu'avoir prêché d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Là, on a probablement une allusion à ce qui a été évoqué déjà au chapitre 6 et 7. Mortifier son corps, tenir des choses du corps de la chair dans la mort, comparé à des choses du corps qui sont de Dieu, selon Dieu. Et là, on retrouve un peu cela. L'exercice corporel, oui, il a sa place, mais de la même manière qu'il a sa place et qu'il a une certaine utilité, l'exercice de la piété est utile en toute chose. La piété qui est évoquée, qu'on a vu au verset 16 du chapitre 3, ce mystère de la piété qui est pleinement manifesté dans la personne du Seigneur, dans tout ce que nous pouvons voir de lui, en engagement, je ne vais pas commencer une énumération parce qu'elle serait sans fin, de toutes les facettes que a cet exercice de la piété, ce qu'est la piété, qui doit être nourrie, entretenue, gardée, ayant la promesse de la vie présente et de la vie qui est à venir. La promesse de la vie présente, c'est par exemple le Seigneur qui a promis d'être avec nous tous les jours. Jusqu'au bout du chemin, Paul revient à cela, le Seigneur s'est tenu près de moi. À plusieurs occasions, il rappelle comment, dans des épreuves, le Seigneur a été avec lui. C'était bien des épreuves terrestres sur la terre. Et puis des promesses de la vie qui est à venir, être avec Christ. Dans ce chemin, il y a ce besoin de cette discipline personnelle et qui est tout de suite, qui a pour Timothée et pour n'importe quel d'entre nous, quand le Seigneur nous confie un service, qui a ses retombées directes dans l'exercice du service lui-même. Et là, Paul rappelle à Timothée ce lien fort qu'il y a entre le service qu'il doit accomplir, mais qu'il ne peut accomplir que s'il y a ce fonctionnement de lui-même personnellement, ce fond, nourriture, pas de n'importe quoi, pas n'importe comment, l'exercice de la piété, cette proximité permanente avec Dieu pour être mis dans l'état qui convient pour accomplir le service.
Juste un mot sur le verset 7, rejette les fables profanes et de vieilles femmes. Autrement dit, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est il faut surveiller ce que nous mangeons. Et Dieu nous dit de nous nourrir de ses paroles, de manger. Et au verset 7, il nous dit de surveiller cette nourriture que nous mangeons. Il faut faire très attention de quoi nous nous nourrissons. Et verset 8, ou la fin du verset 7, « Exerce-toi toi-même à la piété. Qu'est-ce que la piété ? La piété, c'est notre relation personnelle avec Dieu. C'est notre relation intime avec Dieu lui-même et avec le Seigneur. Et nous voyons que dans ce chapitre 4, la piété est reliée à la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, eh bien, c'est l'expression de l'autorité de Dieu qui devrait s'imposer à nos âmes, mais c'est aussi l'expression de sa pensée, de toutes ses pensées sur toutes les choses que nous allons rencontrer dans la vie chrétienne. Et la piété, bien cette, la piété, c'est ce contact personnel que nous allons avoir avec Dieu et avec le Seigneur, mais à travers sa parole. Et la piété ne peut se développer que à travers la lecture de la parole de Dieu. Et plus précisément, comme Jacques vient de dire, c'est aussi en rapport avec le mystère de la piété est grand. C'est-à-dire, plus nous entrons dans la connaissance du Seigneur Jésus, dans les évangiles, plus nous lisons la parole de Dieu et nous apprenons sa pensée sur toutes les choses que nous allons rencontrer, eh bien, cette piété, cette relation avec Dieu va se développer. Et nous voyons que c'est quelque chose qui est journalier. C'est pas quelque chose qui va nous arriver un jour et qui va nous quitter le lendemain. La piété, c'est un exercice continuel, jour après jour. En lisant la parole de Dieu, nous apprenons qui est Dieu, qui est le Seigneur Jésus, quelles sont ses paroles, quelles sont ses pensées à notre égard, quels sont ses désirs pour que nous ayons une marche et une vie chrétienne qui l'honore dans tous les détails de notre vie. La piété est toujours liée à la lecture de la parole de Dieu. Et c'est ce lien entre Dieu et chacun de nous qui va se développer en la lisant. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul fait le lien ici entre être nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine, et ensuite, exerce-toi toi-même à la piété. Cette relation intime avec Dieu ne peut se développer qu'à travers la lecture de la parole de Dieu, et pour sa compréhension, nous avons besoin des secours de l'Esprit de Dieu.
Alors, je voudrais juste faire une remarque en parallèle qui n'est pas proprement dans le sujet, mais par rapport à ces fables profanes, pour donner un exemple et en même temps une explication pour des plus jeunes ou qui ne savent peut-être pas ces choses, il peut vous arriver d'avoir entre les mains une Bible qui a dans l'Ancien Testament des livres que n'ont pas les Bibles courantes comme celles que nous avons, ceux qu'on appelle les apocryphes. C'est des livres qui ont été rajoutés, pas sur les détails des circonstances, qui ne figurent pas dans la Bible hébreu que les Juifs ont retenu. Les rabbins juifs n'ont pas retenu ces livres. Et je dirais que cette expression « fable profane » est un mot-clé tout à fait parlant pour évoquer le contenu de ces livres-là. C'est des livres qui n'apportent rien pour nourrir justement ce qui nous occupe là, la piété, la foi. Ce sont des fables humaines, profanes et pour certaines bien plus que profanes, plus graves que profanes. Alors c'est des livres, il y a les Maccabées, c'est le seul livre qui pourrait avoir un intérêt, qui a un aspect historique. Et sinon, il y en a d'autres, il y a des chapitres supplémentaires à Daniel qui sont immoraux, franchement. Et d'autres livres, Sagesse, Siracide, Tobias, voilà, juste pour donner. Ces, bibles, ces livres ont été dans des bibles, dans toutes les bibles, jusque courant du XIXe siècle. Luther disait, je ne sais plus la formulation exacte, comment il le disait, que ce sont des livres qui n'apportent pas grand-chose, mais qu'il n'est pas inutile d'avoir avec. C'était une parole un peu, voilà, une façon de dire, ils y sont, quoi. Et ce qui est, vous les trouverez toujours dans des bibles catholiques, parce que le Concile de Trente les a déclarés inspirés, parce qu'il croyait y trouver des arguments pour contrer les réformateurs. Ça donne un peu le cadre pourquoi on peut encore retrouver ces livres dans certaines éditions de la Bible. Mais voilà, le mot-clé qui les caractérise, c'est vraiment des fables profanes. Donc c'était juste une parenthèse, parce que si ça vous arrive de tomber sur une Bible où il y a ces livres, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ben voilà.
On peut ajouter peut-être aussi, sans enlever de ce qui vient d'être dit, c'est on a fait le lien aussi avec la superstition et les pratiques superstitieuses qu'il y a aussi dans le paganisme, chez les païens. Et pourquoi le lien a été fait aussi par rapport à ces fables profanes et de vieilles femmes? C'est parce qu'il nous est dit à la fin du verset 10, « Nous espérons dans le Dieu vivant qui est le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. » C'est-à-dire, au fond, ayez confiance en Dieu. C'est lui le conservateur, celui qui va vous garder en vie, qui va vous maintenir en vie. C'est lui qui maintient en vie tous les hommes. Mais n'écoutez pas les superstitions qui viennent du paganisme, n'écoutez pas tout ce qui vient de chez les païens. Et il s'agit de fables profanes et de vieilles femmes. N'écoutez pas ça. Eh bien, celui qui vous garde, eh bien, c'est le Dieu vivant. N'écoutez pas ce que vous allez entendre peut-être autour de vous, dans le monde dans lequel vous êtes. Non, c'est Dieu qui est le conservateur de tous les hommes. C'est le Dieu vivant. C'est lui qui vous garde. Ne cherchez pas des substituts ailleurs et dangereux. Ne tournez pas vos regards et votre attention vers ces fables profanes et de vieilles femmes. Nous savons qu'aujourd'hui, la superstition se développe de plus en plus. Dans un monde qui est sans Dieu, eh bien, il faut quelquefois s'appuyer sur des choses qui ne sont pas bonnes. Eh bien, ce qui nous est dit ici, eh bien, nous espérons dans le Dieu vivant qui est le conservateur de tous les hommes, et spécialement des fidèles.
Sans prolonger, mais très très rapidement, sur cette notion de fable profane, rejette les fables profanes. On a eu quelques exemples, hein, c'est plutôt pour les plus jeunes, eu égard à ce que Jacques nous a donné comme exemple, ou Michel, ces livres qu'on a pu rajouter, ou cette superstition, mais on peut aller encore bien plus loin. Parce que la parole de Dieu est toujours vivante aujourd'hui et parle à nos cœurs. Si on prend ces deux mots, fable et profane, et qu'on en regarde la définition, une fable, c'est, on connaît tous des fables, hein, c'est un très très court récit qui mène à une morale, donc à la moralité. On connaît tous au moins les fables de La Fontaine. Ça dicte une attitude et une conduite. En tant que telle, on peut se dire, bon allez, c'est pas très mauvais. C'est le principe de la fable. Mais alors là, le mot fable, il est associé à la notion de profane. Et profane, quand on regarde un peu le dictionnaire, c'est qui va à l'encontre de la religion. On va pas parler de religion, donc on pourrait dire qu'il va à l'encontre de la pensée de Dieu. Donc c'est quelque chose, une fable profane, c'est quelque chose qui est dicté comme étant une conduite, une attitude à suivre, donc un sens moral, et qui va à l'encontre de la pensée de Dieu. Alors si vous regardez, chers jeunes, un peu autour de vous, si vous prenez un tout petit peu le temps, on ne va pas l'énumérer maintenant parce que ça serait trop prolongé, mais on a pas mal d'enseignements qu'on entend aujourd'hui, hein, qui ont un sens, presque un sens moral, qui dictent une attitude, mais qui vont complètement à l'encontre de la pensée de Dieu. C'est ça. Alors il y a tout ce qu'on vient d'entendre, la superstition en est un, mais vous pouvez aller bien plus en profondeur. Et c'est parfois bien plus flou aussi, hein. C'est quelque chose que tu vas te rendre compte, c'est un peu un lien aussi avec cette notion de cautérisé qu'on a pu voir aussi précédemment, mais tu vas te rendre compte que c'est une pensée qu'on va te dresser comme étant, même pas une notion de juste, comme étant morale, c'est-à-dire que ça doit dicter une attitude. Et c'est complètement à l'encontre de ce que pense Dieu. Et donc la parole est très claire là-dessus, et ben rejette. Voilà. Alors parfois on peut se dire, qu'est-ce que je dois faire? C'est compliqué, c'est pas facile, rejette. C'est clair là. Et dans la notion de rejeter, c'est pas tant la personne qui... C'est la pensée qu'il faut rejeter. C'est ce que le Seigneur nous encourage à faire.
Une remarque. Pourquoi est-ce que Paul nous dit des fables profanes et de vieilles femmes? On saute un peu par-dessus cette expression parce qu'on est peut-être un peu gêné. Mais voilà, je pose, on parle bien en alsacien, on dit Oma Geschichte, l'histoire de grand-mère, quoi. Voilà. Est-ce que, je pose la question, est-ce qu'il y a là derrière un danger particulier pour les sœurs, avec l'âge, de perdre de perdre cette notion de ce qui est concret, dur, appuyé sur la parole par rapport à ce qui est imaginaire? Voilà. On est dans un contexte, quand Paul écrit ça, où, comme dans aujourd'hui encore, les sœurs, les femmes, vivent souvent plus âgées que les hommes, en moyenne. Et donc sont peut-être plus sujets à ce genre de danger. Et qu'à ce moment-là, voilà, l'association fable profane et de vieille femme vient plus naturellement que ce qui nous est à nous. Bon, j'évoque ce point pour qu'on ne saute pas complètement par-dessus cette expression, mais si un frère a une autre pensée qui serait plus à propos.
Bon, je crois que c'est juste hein, ce que tu dis. On peut se souvenir aussi que dans 1 Timothée 2, où il nous est dit que « je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme », il s'agit d'une exhortation qui est claire et directe. Et on a associé aussi ce fait de fable profane et de vieille femme, c'est aussi... Un avertissement indirect, pas aussi direct que dans le chapitre 2, sur l'enseignement des femmes. C'est-à-dire, c'est une désapprobation indirecte, alors qu'elle était directe dans le chapitre 2. Alors, ce qu'on a dit aussi à propos des fables profanes et de vieilles femmes, et de vieilles femmes, il s'agit de choses extravagantes et imaginaires. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est tellement extravagant qu'on doit le rejeter, et c'est facile à faire le diagnostic.
Par rapport aux fables profanes, pour la compréhension, peut-être dans la Bible, profane c'est traduit dans la Bible allemande avec sans Dieu. Donc, ça fait aussi nouveau pour tout ce, ça fait aussi penser par exemple à la philosophie qui justement essaye de, d'expliquer les, le monde mais sans Dieu. On peut peut-être aussi penser un peu à la philosophie.
Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique en particulier, le mot profane a plus un sens plus neutre. Il y a ce qui est saint, consacré à Dieu, et ce qui est profane, ce qui est ordinaire. Et au fond, en français, c'est le verbe qui est profané, qui prend toute la force du côté négatif du mot, en ce sens que profaner, c'est rendre ordinaire quelque chose qui est saint. Et en ce sens-là, la fable profane, c'est quelque chose qui reste du registre de l'ordinaire en ne s'élevant pas et en ne pouvant pas s'élever aux choses saintes.
Oui, c'est 1 Corinthiens 11, verset 19. « Car il faut aussi qu'il y ait des sectes parmi vous. » Alors, il nous est dit « des sectes ou écoles, comme se formaient les philosophes. » C'est toujours les mythes, les fables, les philosophies, tout ça, c'est, je pense, la même catégorie de choses.
Pardonnez-moi, juste pour terminer sur le côté positif, c'est peut-être aussi tout ce qui n'est pas... justement les paroles de la foi et de la bonne doctrine, peut-être pas tout, mais c'est vraiment le contraire de ce qui est les paroles de la foi et de la bonne doctrine, c'est-à-dire les paroles qui sont reçues par la foi. Si une parole ne peut pas être reçue par la foi dans la piété et dans la relation, dans notre relation vivante et personnelle avec Dieu, eh bien il y a peut-être... C'est peut-être Dieu de bon de le rejeter, c'est-à-dire de ne pas s'en occuper, le rejeter. Je rappelle simplement ceci aussi qu'on a dit, peut-être en plusieurs fois, le dire seulement en une fois, nourri dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as pleinement comprises, ce n'est pas seulement nous nourrir comme de quelque chose qui va nous faire subsister. Mais c'est aussi comprendre mieux qui est notre maître. Tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri dans les paroles de la foi. Si nous voulons servir le Seigneur Jésus, nous avons besoin d'être nourris dans les paroles de la foi et de la bonne doctrine pour comprendre qui il est. Sinon, nous ne comprendrons pas qui il est et nous servirons mal. Si nous n'écoutons pas ces paroles, en particulier les paroles du Seigneur Jésus dans les évangiles, les recevant dans notre cœur par la foi et avec des communications constantes avec lui, avec lui-même, nous ne pourrons pas servir correctement. Et là pour Timothée, c'est, je crois, aussi le sens. S'il veut être un bon serviteur, il faut qu'il soit nourri pour servir conformément à qui est son maître. Et aujourd'hui, peut-être nous avons le problème, nous les jeunes, moi y compris, de ne pas approfondir, en particulier approfondir la bonne doctrine. Mais là, c'est dit que tu as pleinement comprise ou suivi avec exactitude. Quand on fait un exercice de mathématiques, il faut lire la consigne. Tant qu'on n'a pas pleinement compris la consigne, on n'est pas capable de faire l'exercice. Et peut-être aussi pour nous qui sommes plus jeunes, avec tous les dangers qui nous ont été dits, peut-être rappeler simplement... pour que nous le présentions devant le Seigneur, que nous sommes en danger de ne pas approfondir et de ne pas pleinement comprendre la bonne doctrine, mais en rester à simplement une idée ou ce que nous imaginons. Voilà. ajouter ça.
Sport 4 et 5.